Donc je continue justement le cheminement qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le fil conducteur qu'on a mis en place. Il y a l'image, il y a l'image mise en dispositif, c'est-à-dire comment il a été mis en application dans ces lieux patrimoniaux, comme le musée, la façon comme ça, comme il a été mis en jeu, etc. Je souhaiterais continuer cette démarche par, comme Julie l'a super bien introduit, cette notion de réalité augmentée et ses positionnements de marketing. J'ai trouvé intéressant justement de parler qu'au niveau technologique en soi, bah, comme vous pouvez voir en face, on a inventé un peu le shot, quoi, parce qu'on part d'un outil qui existait déjà. Et par rapport à cette notion de réalité augmentée ou des lunettes de réalité augmentée, bah on parle d'un outil comme le stéréoscope, si je le prononce bien. Mais bon, bah, on parle de ça. Technologiquement, c'est un outil qui existe depuis très longtemps, mais qu'on a adapté et qu'on a mis en jeu, ou qu'on a, si je peux utiliser le terme, médié, ou mis en médiation par l'outil numérique, comme là je parle de trois technologies que je mets ici en face, là, celle où la dame elle a des petites manettes, et c'est les HTC Vive, c'est une technologie qui permet l'interaction avec les objets numériques. En haut, vous avez des lunettes qui s'appellent les lunettes Oculus, qui sont développées par le HoloLens, qui sont développées par Microsoft. Et vous voyez là l'interaction qui est en train de se passer. C'est une interaction où il y a de plusieurs personnes qui sont en train de travailler avec l'outil. Ils sont tous les trois en train de travailler avec le même outil virtuel, un hologramme. Ils sont en train d'interagir. Et si vous voyez par rapport à la différence avec cet outil-là, HTC Vive. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous marque, mais moi personnellement, il y a quelque chose qui me marque de ces deux outils, de ces deux technologies. L'une, et les usagers, ils sont ici, ils regardent. Ils sont tous autour d'un élément holographique sur lequel ils sont en train d'interagir. Et en plus, je ne sais pas si vous ne connaissez pas cette technologie-là, les HoloLens, il y a un miroir en face. C'est-à-dire qui permet de voir ce qui se passe dehors. Tandis qu'ici, dans cette technologie-là, vous voyez, il y a une brique, une véritable brique, qui est superposée devant les yeux de l'utilisateur. Et au niveau de cette notion de réalité augmentée, de cette notion de réalité virtuelle, ça pose un véritable problème qui est en train d'être étudié actuellement. C'est le fait que si on souhaite émettre ou faire de la communication interpersonnelle, on passe par le regard. Si je souhaite parler avec quelqu'un, je dois le fixer, je dois voir ses yeux. Et dans ce développement de cette technologie de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et j'attire votre attention sur les terminologies et sur le fait que là, je ne viens pas ici à vous vendre ces outils-là, au contraire. Et c'est
le moment de parler. Enfin, quand même.
On dirait, mais ce n'est pas le cas.
On a les contrats, là.
On est en train ici d'analyser ce positionnement de marketing. C'est notamment par ces biais-là que je vais essayer de parler des deux expériences que nous on a développées, que je suis en train de développer à l'intérieur de ma recherche. Mais avant de continuer, je voulais vous montrer justement cette image qui me semble décrire particulièrement la problématique de cette notion-là. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeune homme qui est en train de marcher là, c'est Mark Zuckerberg, le propriétaire fondateur de Facebook. Et si vous voyez la puissance de l'image qui est montrée ici, là, il venait d'acquérir un dispositif ou une des technologies de réalité virtuelle. Et là, il est en train d'accéder au keynote. Et lui, il est le seul qui ne porte pas le dispositif. C'est-à-dire qu'il a soumis toute l'audience au dispositif. Il a soumis toutes les personnes. D'une certaine manière, c'est un peu le dualisme. Ma présentation elle est binaire. C'est pas parce que je suis dans le numérique que je vais parler d'avoir une logique binaire. On a commencé par une logique binaire. Mais c'est le fait que vous le voyez, on est dans une notion presque hybride. On va le voir tout à l'heure pourquoi on parlait de cette hybridation entre réalité virtuelle et entre augmentation et réduction. rien que par rapport à ces outils, la façon comme on le montre, il y a cette notion de réalité, on est dans le réel, on a des objets qui sont factifs, qu'on les touche, qu'on les met sur nous, mais ils nous transportent, ils nous mènent dans des réalités parallèles, des pseudo-réalités, et des constructions de réel qui nous ont été soit soumises par les producteurs de contenu, des productions de réel qui nous ont été que nous construisons par le jeu, mais qui quand même ils nous ont été biaisés, construits, dirigés. Et donc du coup on va se retrouver dans cette logique un peu binaire. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer un peu le cheminement pourquoi on est arrivé là, parce que là où je vous ai parlé notamment des outils que des réalités virtuelles, réalité augmentée, qui sont déjà très appareillés, par exemple ces outils-là. Et notamment l'HTC Vive, celui-ci ici, on avait soin d'un super ordinateur à côté pour que ça marche. Et non, ça ne marche pas. Là, je vous le raconte, ça poserait de problème si vous savez seulement ça. Derrière la dame, c'est ce qu'on ne montre pas, mis à part sa couette, il y a un fil de cette taille-là qui amène un ordinateur, donc les mouvements ils sont un peu fermés. Or, nous, on se retrouve actuellement avec des outils comme, et je pense que la plupart d'entre nous l'avons dans la poche, des outils de réalité augmentée et d'usage de la réalité augmentée ou des médiations vers la réalité augmentée portable. C'est nos téléphones. Et d'ailleurs, s'il y a un outil qui permet de faire ça, très facilement, c'est une technologie qui s'appelle c'est la cardboard de Google. C'est un truc qu'on peut plier. Et vous mettez votre téléphone et là vous avez des lunettes de réalité augmentée, ou des réalités virtuelles. C'est aussi simple que ça. Et ça coûte même pas 10 euros, on a fait avec des enfants, on fait des ateliers avec des enfants, des créations, des cardboards, vous mettez des petites lentilles et ça fonctionne. Et ces outils-là, je les montre ici en haut, ils s'apportent, entre guillemets, la promesse commerciale, la promesse marketing qui était mise. Et au sein du e-tourisme, c'est de dire, écoute mec, tu vas pouvoir te promener en Russie, notamment ça marche maintenant pour la Coupe du Monde, et si tu veux justement utiliser ton dispositif pour interagir, pour médier, pour optimiser ton rapport avec la ville, tu utilises ton téléphone, il va te traduire automatiquement les panneaux. C'est le cas. Et c'est quelque chose qui fonctionne déjà, fonctionne super bien. Déjà, les derniers keynote de Google, ça avançait de 10 ans par rapport à ce qui était montré auparavant. La reconnaissance visuelle qui vient de la reconnaissance faciale, c'est déjà un fait. C'est une technologie qu'on l'a déjà tous dans nos téléphones, notamment dans le téléphone Android. Mais cette réflexion, elle vient depuis un moment. Là, je vous montre très rapidement les notions de patrimonialisation et des mises en jeu et des gamifications, j'utilise le terme un peu anglophone, francisé, des mises en jeu de le territorial, des mises en jeu de le patrimonial par une application qui a été développée en 2015 à la cathédrale de Mons, où ils nous ont permis d'avoir un iPad, et à partir de là, on avait des objets qui devenaient des objets réels par les biais, par ces lunettes, par cet outil, la tablette, et on pouvait par la suite utiliser le téléphone. Mais je trouve intéressant, je trouve intéressant de situer une problématique de cette promesse commerciale sur le fait qu'on parle des smartphones. On parle de smart destination, on parle de smartisation. Et tout simplement pour montrer, et si vous voyez, cette notion est importante de la définir, du fait que on parle de la smart city et on considère que cette smart city, elle doit être abordée par l'outil mobile, et la Smart City existe parce qu'on l'utilise ou on interagit avec cet objet, avec ces lieux, par le téléphone. Or, c'est bien plus varié que ça. Et en principe, c'est le fait de positionner et de mettre des capteurs, de recueillir des données, d'analyser ces données, ce qu'on appelle maintenant, c'est la grande lubie actuelle de Big Data, de Smart Data, de la centralisation des données, etc. Et où on arrive? Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'auparavant, on s'est retrouvé dans cette logique bien plus fixe. C'est-à-dire qu'on avait un ordinateur, les gros ordinateurs, rappelez-vous, je pense que j'utilise les mêmes qu'on a tous utilisés, et on ne pouvait pas les bouger. S'il fallait les bouger, il fallait pas appeler plusieurs personnes pour les déménager. Et ces objets-là, ils s'utilisaient, ces objets-là, ils fonctionnaient, le cœur de leur travail, c'était auprès d'un site internet. Aussi, un objet qui s'adaptait à l'écran, qui était fixe, qui ne permettait pas une interaction ou lisser ces mots. Et au fur et à mesure, la technologie elle est avancée pour arriver à un objet comme les mobiles, c'est ce que je parle ici, où on est dans une situation que je peux, avec mon téléphone, charger un site internet. Je peux, avec mon téléphone, avoir une application. Je peux, avec mon téléphone, déterminer qu'est-ce que je vais faire dans mon expérience touristique avant de partir, pendant que je suis en train de vivre mon expérience touristique, et par la suite, qu'est-ce que je fais après. Donc on se retrouve dans une logique nouvelle, entre guillemets, des consommations du lieu, des consommations du territoire, d'usage. Avant, je préparais mon voyage avec mon guide Michelin, je l'ai regardé, je l'ai gardé dans la poche. On revient un peu dans cette logique-là. Mais quand on a commencé cette notion de e-tourisme, je l'ai préparé avec mon ordinateur et après, j'avais même la possibilité de me déconnecter et de ne pas savoir ses liens avec le numérique. Or, dans cette nouvelle logique d'hybridation des usages, même en étant en situation de vol, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, et si vous voulez, par exemple, chez Lufthansa, vous pouvez avoir le Wi-Fi. Donc, on n'est plus dans des lieux non connectés. On n'est plus dans des lieux où on se retrouve éloigné de la technologie. Même en guillemets, c'est mes paroles, parce que là, j'ai la 4G. Donc, malgré les trucs qu'on a, on a une promesse commerciale de connexion, on est dans la connexion. Mais je voulais vous parler des deux cas d'application de ces domaines. J'ai étudié le territoire du Loiret, et lequel, ici, dans cette logique binaire, je souhaitais vous montrer comment il était représenté. La carte, c'est une représentation graphique du territoire, mais à côté, je vous montre comment ce territoire du Loiret, il est représenté quand on le cherche par l'Apple Store. Donc, quand je cherche le Loiret sur l'Apple Store, ce que je retrouve, c'est cet élément-là. Il me propose des applications, des outils numériques, des objets numériques à utiliser. Tandis que si je cherche la carte Loiret, on la connaît presque tous avec Orléans, notre cher Jeanne d'Arc au milieu. L'objectif de cette recherche-là, de ce travail que je mets ici, c'est comment on peut croiser le territoire physique avec le territoire numérique et comment on peut vivre l'expérience du territoire par les outils numériques. Comment je fais cela? Je vous ai parlé de smart tourisme et tourisme. Donc j'ai pris deux applications de ce territoire-là. J'ai pris cette application qui s'appelle Loiret Balade. C'est une application développée par le comité départemental de tourisme. Donc du coup, il y a déjà une notion de territoire. Je commence à vous servir par rapport à ces structures touristiques. C'est le territoire qui a commandé cette application à deux agences web. Une agence qui a développé l'application et une agence qui a développé le site internet. Et le but de cette application, c'est de vous accompagner, la promesse commerciale, et de vous accompagner lors de vos balades. Donc du coup, si vous avez deux doigts de front que vous perdez facilement, cette application va vous permettre de ne pas vous perdre dans le Loiret et de vivre davantage l'expérience et d'augmenter votre expérience du territoire, avoir plus de connaissances du territoire, peut-être connaître sur l'histoire, connaître sur les balades. Et je ne vais pas entrer dans la valorisation de l'outil. Je vais vous parler très rapidement de quels sont les faits marquants de cet outil-là. D'abord, le premier fait marquant, ce que je vous introduisais tout à l'heure, c'est que c'est vous-même qui utilisez votre dispositif. C'est une logique qui s'appelle Bring Your Own Device. Vous me pardonnerez mon accent encore. C'est j'utilise mon propre outil pour exploiter le territoire. Première des choses. Donc, vous téléchargez l'application. Par la suite, L'application, elle a coûté très cher au développement. Donc le territoire, il a dû débourser une quantité d'argent assez importante, sans logique et sans notion de retour sur investissement. Pour eux, c'était l'objet de créer cette application pour faciliter la visite, pour faciliter l'accès au territoire. Point. On reste là. OK. Cette application, c'est une application fermée, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut la renouveler, il va falloir la redévelopper. Il va falloir refaire des choses. Donc, du coup, il va falloir casquer à nouveau. Si je peux utiliser ce terme. Mais attention, et c'est une notion sur laquelle je tiens à vous situer, c'est une application de parcours ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est dans la médiation, notamment pour les spécialités de Julie, c'est la muséographie, on est dans un parcours fermé. Le musée, c'est un parcours qui est sur lequel le réel, il est davantage maniable, si je peux utiliser ce terme-là. Les éléments du réel sont plus contrôlables, si je peux utiliser ce terme-là. Là, peut-être que je fais un peu ami avec l'espagnol. Mais c'est-à-dire, vous avez des chambres, vous avez des lieux, et vous n'allez pas sortir, vous traversez le mur, vous savez que vous avez un parcours de visite. Or, cette application ne permet pas ça. Vous êtes à Orléans et après vous avez une envie folle de continuer à Beaugency. Vous partez à Beaugency et après vous rentrez sur Orléans à nouveau et à Orléans même, vous avez toute une possibilité de choses à faire. Donc du coup, le contrôle du parcours client, il est très faible. Et ça pose énormément de problèmes. Le guidage, cette façon d'aborder les lieux, et complexifie l'utilisation de l'application. Donc, ça pose des véritables problèmes, et c'est des notions que j'analyse. C'est une application qu'à la fin, les usagers n'utilisent pas. Ils la téléchargent, et le temps de déperdition, c'est-à-dire ils restent sur la première ou la deuxième page de l'application, et ils ne vont pas au-delà. Parce que ça pose énormément de problèmes. Ça pose le problème quand je vous ai signalé que c'est déjà avec son propre dispositif, donc du coup il n'y a pas de pile, il n'y a pas de wifi, des fois il ne s'allume pas le GPS, donc du coup ils ne peuvent pas utiliser les éléments valorisants de l'application. Et après on se retrouve avec des retours utilisateurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tandis que, et là je vous parle de l'autre objet que j'ai analysé, c'est une application qui s'appelle la tabulette. Déjà, un nom évocateur comme l'ardoise qui a développé la Poste. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est pour les personnes âgées. Je parle d'un outil qui s'appelle l'ardoise, pour une application mobile. Ouais. Et cet objet, la tabulette, il a été développé par le château de Beaugency, dans le Loiret. Et c'est un outil de médiation et de visite. Déjà, première chose, ce n'est pas une application qu'on peut télécharger avec son téléphone. C'est une application par laquelle on utilise un iPad. Donc déjà, première chose, coût de développement très très important. Un peu sur la notion, on parlait tout à l'heure d'Avignon et des investissements sur super importants. Mais ils prêtent une tablette par groupe familial. Et qu'est-ce qui se passe? Ils donnent la tablette souvent aux enfants. Mais attention, dans leur promesse commerciale, dans leur promesse marketing, ils disent c'est l'enfant qui va devenir médiateur culturel. Et là, comment ils sont réussi à vendre cette notion-là à la presse, j'ai participé avec eux à ces campagnes de presse, ils disent la tablette, elle agit en tant que lien familial de cette expérience touristique, de cette expérience de vécu de lieu, parce que l'enfant, il devient le guide. L'enfant, il vient avec vous, il vous accompagne, il vous montre le lieu. Et c'est vrai, entre guillemets, parce qu'on l'a vu dans la pratique, on voyait les enfants qui jouaient avec ça, et que les parents, ils étaient en train de dédouaner leurs responsabilités, c'est-à-dire, vas-y, joue. Je joue avec la tablette. Et l'enfant, il avait cette notion facilitatrice, il avait une approche plus simplifiée de l'outil. Mais, qu'est-ce qu'on observait? D'un côté, première chose, cette chose, cet élément que je vous ai dit tout à l'heure de désengagement, il était réduit. Pourquoi? Parce que la tablette et l'application, elle s'est basée au, elle racontait ces lieux culturels par les biais du jeu. Donc du coup, l'enfant, il y avait toujours une notion de viens, regarde ça et tu vas gagner un prix. Et fais telle chose et tu vas accumuler des points. Donc du coup, cette notion de désengagement et de limitation de l'usage, bah, elle était limitée. Nous, on a analysé les temps d'utilisation et toutes les périodes, et on voyait qu'on se retrouvait les mêmes chiffres au début et à la fin. Et notamment parce qu'à la fin de cette tablette, je voulais venir vers là, l'enfant, il gagnait un œuf. Et l'œuf, de l'œuf, il y avait un beau dragon qui sortait. Je ne sais pas vous, mais du côté de Loiret, je n'ai jamais vu des dragons. Et surtout, on met à l'intérieur de même outil, à Jeanne d'Arc avec Philippe Ier. Bien que ce n'est pas mon domaine d'histoire, je crois qu'il y a un problème d'anachronisme. Et c'est un gros problème de ces outils numériques. Et on raconte des histoires, comme on l'a introduit tout à l'heure, on raconte des histoires, mais basées sur énormément d'anachronismes, notamment pour pouvoir capter l'attention et faire émerger des intérêts, jouer pour qu'on ne déperde pas l'attention. Et je voulais vous parler aussi un dernier, je vais finir par cette expérience-là. Et j'ai eu l'opportunité d'analyser la démarche des smart cities et des smartisations de l'expérience touristique des Syracuse en Italie. Et pourquoi j'utilise cette diapositive pour finir ma présentation? Le fait que cette logique des smart, d'intelligence, vient du fait de permettre aux touristes, comme je vous l'introduisais tout à l'heure, la possibilité de mieux pratiquer le territoire, de faciliter justement l'approche du territoire. Et eux, ils sont mis à jeu le patrimoine grâce à cet outillage, les QR codes. Pour le test, j'ai passé toute la journée devant le QR code que vous voyez là, à analyser et à compter combien de personnes flashaient les QR codes. Il y a eu une personne. Moi.
Ça, c'est un biais de recherche terrible.
Ouais, voilà, là, les soucis, c'est le biais de recherche, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est déjà de là que je pose la question sur le. Je souhaitais finir par cette question. Est-ce que le fait de proposer ces outils de smartisation, déjà que le terme c'est véritablement un positionnement commercial, parce que ce n'est même pas des outils smart, il n'y a pas d'intelligence derrière. D'ailleurs, je vous annonce, si vous avez des smartphones, vous pouvez les jeter à la poubelle, parce que maintenant on ne parle plus de smartphone, le smartphone il est mort, on parle de téléphone intelligent. Ce n'est pas la même chose. C'est donc du coup si cette logique des smartisation est nécessaire à l'expérience touristique et elle apporte véritablement quelque chose à l'expérience touristique ou il n'est que véritablement un positionnement nettement commercial mais qui à la fin permet le développement de la technologie. Là, par rapport au biais, ce que disait Philippe par rapport au biais des recherches, j'observais aussi la moyenne d'âge des visiteurs et ce n'était pas des personnes qui étaient forcément équipées. Mais nous, on a vu ici qu'à l'entrée du lieu, il y avait le QR code de la page Facebook d'ici. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai vu. Mais donc, est-ce que la smartisation des lieux, la smartisation des usages est véritablement nécessaire à l'expérience touristique? Est-ce que ça va nous apporter véritablement un contenu supplémentaire? Aussi, c'est véritablement un chemin de passage qui va permettre le développement de la technologie. Parce que pour finir, je ne voudrais pas émettre une valeur de vérité, dire la technologie est mauvaise, c'est mauvais ce qui est en train de passer. On le voit dans le médical, cette notion de réalité augmentée permet justement de faire des opérations à distance. Donc, c'est là que Philippe l'a situé, c'est un sujet qui est en train de développer, c'est un sujet de recherche. Voilà, merci beaucoup.
Merci.